bonjour à tous. J'ose pas dire bonsoir parce que c'est quand même pas encore le soir. Ça permet aux derniers arrivants de pas être en retard du fait de cette petite contrainte technique. Je suis ravie d'être avec vous ce soir à l'occasion de cette programmation du Casse-Noisette, dansé par le Ballet de Genève et chorégraphé par Jeroen Verbruggen. Et c'est l'occasion pour nous de consacrer notre heure ensemble à la question de la relecture des grands ballets classiques. Alors je l'ai intitulé « Entre tradition et innovation » et donc on va essentiellement se concentrer sur Casse-Noisette, même si je vais me permettre peut-être une ou deux digressions en introduction. Alors pendant que certains attendaient, vous avez pu voir les quelques images d'un dessin animé très connu qui est le Fantasia de Walt Disney de 1940, dans lequel on a un certain nombre de morceaux musicaux du Casse-Noisette, du ballet Casse-Noisette, qui ont été mis en image par Walt Disney. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est au tout début de la séquence comprenant ces six morceaux sur Casse-Noisette. Dans ce Fantasia, il est dit, au sujet de Tchaïkovski, « Un artiste est souvent mauvais juge de ses propres œuvres. » Et en effet, Tchaïkovski aimait moyennement son Casse-Noisette lorsqu'il l'a créé en 1892. Il a même été surpris de sentir l'engouement des spectateurs à la vue du ballet. Alors que, avec le recul que nous avons, Casse-Noisette est certainement, on va dire, son œuvre pour ballet la plus célèbre aujourd'hui. Il l'a écrite à 52 ans, un an avant son décès. Casse-Noisette appartient au répertoire classique dit académique. Celui-ci est le lieu de multiples reprises et versions successives qui ont permis de conserver, on va dire, vivant ce patrimoine immatériel qu'est la danse. Et aujourd'hui, certaines des versions de Gisèle ou encore du Lac des Cygnes ou encore de Casse-Noisette se veulent fidèles, on va dire, à l'œuvre originelle, alors que d'autres vont s'émanciper de cette œuvre originelle pour faire évoluer finalement l'œuvre vers d'autres horizons. Nous verrons cette question-là plutôt dans la deuxième partie. En tous les cas, les versions, par exemple, du Lac des Cygnes, dites d'après Marius Petipas, et d'ailleurs à noter à ce sujet, puisque Casse-Noisette est aussi de Marius Petipas, à noter que sur ce Lac des Cygnes, la tradition classique choisit de considérer la version de Marius Petipas et de Lev Ivanov, cette version de 1895, comme l'œuvre de référence, alors que ce n'est pas la première, puisqu'il y avait eu, en 1877, un premier Lac des Cygnes, chorégraphié par Julius Ressinger, qui n'avait pas été une grande réussite comme celle chorégraphiée par Petipas et Lev Ivanov. Et d'ailleurs, on s'aperçoit en regardant un peu plus près ses œuvres que le ballet est tout de même passé de 4 actes à 3 actes, ce qui n'est pas un mince changement, mais c'est ce ballet en 3 actes de Marius Petipas qui va devenir le ballet de référence pour ce qui concerne le Lac des Cygnes. Alors, ce travail de création, de conservation, de passation, on va dire, de ce patrimoine immatériel, se fait notamment par la mémoire des danseurs qui ont dansé les œuvres, une mémoire qui est à la fois orale et physique. Se souvenir oralement de comment, du contexte, de comment on nous avait donné des intentions pour le danser, et puis physiquement, toute cette mémoire qui est présente dans le corps du danseur qui permet la transmission des rôles. En tout cas, c'est vraiment comme cela que la tradition classique l'envisage. Ce travail peut aussi s'appuyer, lorsque la mémoire des danseurs n'est plus là, sur des sources matérielles. On peut penser à des notes de travail, par exemple, du chorégraphe ou du compositeur de musique, voire leur correspondance, pour comprendre un certain nombre d'éléments fondamentaux dans le ballet. Mais tout de même, on sent dans la tradition classique, et c'est vrai aussi dans la danse contemporaine, que le premier lieu de transmission, il est vraiment de danseur à danseur, qu'un danseur plus ancien puisse transmettre le rôle à un danseur plus jeune. Donc, je vous l'ai dit, on ne va pas parler tout de suite de Casse-Noisette. Je vais vous montrer un premier extrait qui va vous parler de cette transmission. Du moins, vous allez en voir quelques images avec une danseuse, Alicia Markova, qui va transmettre son rôle dans le Chant du Rossignol, qui était une pièce du début du XXe siècle au sein des ballets russes, une pièce chorégraphiée par Balanchine sur une musique de Stravinsky. Et ça va vous permettre peut-être d'approcher justement ce travail de transmission. Il ne suffit pas de se dire ce soir Casse-Noisette, un ballet dont la première a eu lieu en 1892, mais comprendre comment est-ce qu'on a pu en garder des traces. Je prends l'exemple du Chant du Rossignol.
It was 1925, here in Paris. That's where they carried me around. No, she shouldn't stop there. You see?
Okay, yeah, I will tell you.
Correct. Elle va corriger les développés secondes parce que c'est pas juste.
Now, what he had in mind was the little bird. It's almost funny. You see, this funny little bird. But apparently when she sang, she could save people's lives, musically. Yes? You see? You have Yes, you're only just, it's new now.
C'est presque
once,
un peu comme une improvisation.
You're not dancing for the audience. You're dancing for the poor man that's dying up there.
Tu danses pour le...
You come to save his life.
L'empereur.
You see? This is why. And so, you know, you're thinking all the time, what next you can try to save him? So, you're like here, you see? This. And then, suddenly, it's the music tells you, you see, and then you start. With Balanchine, everything the classical, we were with Maestro Cecchetti in the morning, and he was so, he gave me hell because, you see, I was having to do his in the morning. And, of course, Balanchine, you know, all this, you see, later in the day. That was why.
Je l'arrête ici, mais vous avez compris en tout cas dans ce moment de répétition que l'on a à la fois une transmission sur les pas, la précision des pas, la précision du rapport à la musique, et puis toute cette histoire aussi qui permet de comprendre comment le corps et l'imaginaire du danseur s'est construit par rapport à cette création. J'ai choisi cet extrait pour commencer autour d'Alicia Markova, puisque c'est une grande danseuse aussi qui a participé à des Casse-Noisettes, notamment dans le rôle de la fée dragée. Et c'est à cette occasion aussi que dans le même reportage, elle donne ses conseils sur la fée dragée. Alors vous allez voir, j'ai choisi de vous montrer le premier extrait parce qu'il est plus complet que celui-ci. Mais voici quelques remarques qu'elle peut faire sur la danse de la fée dragée dans le Casse-Noisette.
That's coming. Then we have a beautiful line. You have your tutu. You see, it's much as to say to them, shh, I got things later I can do. She's the child's been every city today. They're not like a sugar plum fairy, you see. She can do wonders.
Elle peut faire des miracles.
You see? And suddenly one day if you feel, oh, I'm going to go and try, you go and try.
J'essaie de faire jusqu'au bout. Hein?
Voilà, alors là on est vraiment dans les versions qui essayent comme ça de transmettre depuis une origine, je dirais, hein, le répertoire classique. Il y a aussi des versions qui s'émancipent de l'œuvre originelle et elles ne sont pas dans le même rapport, on va dire, ou dans la même relation à l'histoire et à la tradition. Plutôt que de la conserver, il s'agit plutôt de la renouveler, de faire du nouveau avec cette tradition. C'est ce que nous pouvons appeler dans le champ chorégraphique les relectures. Relire une œuvre à l'aube d'un nouveau moment de l'histoire de la danse. Si je prends la définition du dictionnaire de la danse, il est dit « Une relecture est une nouvelle version d'une œuvre du répertoire faisant l'objet d'une interprétation personnelle par un chorégraphe. Véritable recréation, elle consiste à s'approprier un chef-d'œuvre sans pour autant le renier, l'enjeu étant, pour l'artiste qui s'en saisit, de le renouveler selon son monde intérieur, d'en révéler de nouveaux aspects esthétiques et religieux. Avec la relecture, on est vraiment dans la démarche de s'approprier une œuvre mais sans la renier, d'interpréter une œuvre mais sans la copier, de renouveler finalement cette œuvre pour partager en quoi elle possède des éléments qui, en les recontextualisant, disent peut-être quelque chose de notre monde, on va dire, et de ses engagements. Alors, vous le verrez, ce soir, on sera peut-être dans ce cas-là. Certaines œuvres du répertoire classique et néoclassique ont été vraiment le lieu de multiples relectures dans des esthétiques très différentes, que ce soit des esthétiques classiques, néoclassiques ou contemporaines, tout au long du XXe et du XXIe siècle. Comment ne pas penser à, évidemment, au Lac des Cygnes, mais aussi à Gisèle, au Sacre du Printemps, à Noce, ou encore à Roméo et Juliette. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de Casse-Noisette, qui nous concerne ce soir? Casse-Noisette, au point de départ, c'est un ballet féerie, de Marius Petipa et de Lev Ivanov, Là encore, souvent, on oublie ce pauvre Lev Ivanov pour consacrer Marius Petipa comme seul auteur de ce Casse-Noisette sur une création musicale de Tchaïkovski à partir d'un conte, d'une histoire, qui est l'histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas, qui est une adaptation d'un conte de Hoffmann, écrit en 1816. Ce conte d'Hoffmann, c'est Casse-Noisette et le roi des souris. Le ballet appartient, on va dire, au répertoire académique de la danse classique et c'est peut-être un des ballets les plus connus, notamment pour sa programmation autour du moment de Noël. Alors nous, c'est un petit peu tardif, mais voilà, très souvent, ce ballet est plutôt programmé au moment de Noël, tout simplement parce que c'est une période qui correspond parfaitement à son argument. Pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, cet argument du ballet, cette histoire à partir de laquelle le ballet se trame, à la veille de Noël, Clara, parfois appelée Marie, dans certaines versions du ballet, pour reprendre le nom qui était utilisé dans le conte d'Hoffmann, donc Clara ou Marie, reçoit de son parrain Drosselmeyer un casse-noisette que son frère casse le soir même. Après la fête, elle le soigne et le répare. Parfois, c'est son oncle qui le fait, ça dépend des versions, et s'endort avec lui. À minuit, les jouets prennent vie et le casse-noisette se retrouve à la tête d'une armée de soldats de plomb qui vont combattre l'armée du roi des rats. Il va se transformer en merveilleux jeune homme qui va emmener Clara ou Marie au pays merveilleux de Confiturembourg où règne la fée d'Aragée. Et là, ils vont voir un certain nombre de moments délicieux apparaître sous leurs yeux. Et puis au matin, la jeune fille va se réveiller encore tout éprise de son rêve. Vous l'avez compris, comme dans de nombreux ballets de Marius Petipa, hein, l'œuvre s'appuie sur une narration issue d'un conte de fées qui évidemment tisse un certain nombre de thèmes, comme le thème de l'amour, le thème des forces du mal, ou encore celui du rêve dans Casse-Noisette, qui contient aussi des dimensions psychologiques, voire psychanalytiques, hein, dans certaines lectures de ce conte, autour de l'éveil de la jeune fille, c'est-à-dire qu'on peut lire le Casse-Noisette comme le passage de l'enfance à l'adolescence chez Clara. D'ailleurs, dans certaines versions, on s'aperçoit que Clara se confond avec la fée dragée dans la deuxième partie du ballet. Clara, la petite fille, devient la femme fée dragée. La partition de Tchaïkovski va vraiment dans le même sens. Hein, il répond à la nature merveilleuse du conte aussi. Vous pourrez en avoir le plaisir ce soir. C'est une partition qui à la fois prolonge, on va dire, la tradition romantique avec un certain nombre de ses harmonies présentes ou choisies par Tchaïkovski qui permettent vraiment des moments d'émotion musicale. Et puis il va avoir des grandes inventions mélodiques au sein de cette partition. On s'aperçoit aussi qu'il y a un grand lyrisme, notamment dans les moments des valses, la valse des fleurs ou la valse des flocons. On a aussi un moment d'emprunt à la chanson populaire dans la version traditionnelle avec deux morceaux, un morceau qui s'appelle, je crois, « Bon voyage, Monsieur Dumollet » et puis « Cadet Roussel » qui apparaît aussi dans le ballet. Et puis enfin, Tchaïkovski va faire preuve d'une grande ingéniosité, inventivité dans l'acte 2, au moment où on va avoir tous ces divertissements du royaume des délices qui apparaissent, où il va faire preuve d'ingéniosité pour avoir une musique langoureuse sur ce qu'on appelle la danse arabe qui signifie le café, ou encore des rythmes très enlevés pour ce qui est de la danse chinoise qui exprime le thé, ou encore l'utilisation du célesta, cet instrument très merveilleux pour ce qui est de la danse de la fée dragée. Donc il va vraiment aller chercher comme ça une grande palette dans ce ballet de Casse-Noisette, une grande palette qui permet de signifier tout un exotisme, toute une rêverie on va dire, dans les tons pastels, évidemment. Alors, ce ballet est divisé en deux actes, on va pas tous les lire, mais en deux actes et trois tableaux, c'est pour vous montrer aussi comment, dans cette tradition classique, on est vraiment dans un découpage très précis des ballets, qui correspond d'ailleurs à un découpage de la partition musicale et qui permet aux chorégraphes à la fois d'avancer dans l'action, tout en ayant des moments, on peut, par exemple, dans le deuxième tableau, le moment de la valse des flocons de neige, c'est absolument pas un moment d'action, c'est plutôt un moment dansé, de plaisir esthétique de la danse. Donc ça permet aussi aux chorégraphes de pouvoir vraiment alterner entre des moments où l'action va avancer dans le ballet, et puis des moments où, au contraire, on va avoir un vrai plaisir esthétique à pouvoir contempler une danse de groupe ou un solo. C'est un programme narratif qui mêle danse savante, pantomime et danse de caractère. Elle fut présentée, cette pièce, pour la première fois le 18 décembre 1892, quelques jours avant Noël, au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Et c'est vraiment Lev Ivanov qui va prendre en charge notamment les dernières répétitions, parce que Marius Petipa est malade. Et donc, il va vraiment suivre les directives de Petipa, mais c'est lui qui va mener le ballet jusqu'à sa première. La version aujourd'hui, ou du moins qui tout au long du XXe siècle va être celle qui va être pensée comme le modèle classique, ça va être une version qui va faire suite à celle-ci, qui va d'ailleurs reprendre cette tradition de Lev Ivanov et de Marius Petipa. Ça sera la version de Vassili Veinonen, qui est un chorégraphe russe du première moitié du XXe siècle. Et dans sa version, qui date de 1934 pour le Kirov, sa version, elle va vraiment être considérée pendant très longtemps comme le modèle classique qui permet d'avoir un référentiel, je dirais, de ce ballet académique qui mêle romantisme, on va dire, narration et divertissement. Alors, il y a eu des versions qui ont été faites suite à cette version modèle de 1934. Alors, je vais vous montrer un extrait de cette version, justement de la valse des flocons, où là on va être vraiment dans le déploiement de cette danse savante, de cette danse classique qui est arrivée à son apogée à la fin du 19e siècle et qui là est reprise. Ce moment de pure rêverie où le paysage s'humanise et où les flocons de neige sont autant de danseuses du corps de ballet. Donc des moments comme ça très féeriques, et puis des moments plus proches de la danse de caractère. Je pense par exemple à tous ces moments que vous avez dans le troisième tableau du divertissement, le chocolat avec la danse espagnole, le café avec la danse arabe, le thé avec la danse chinoise, le trépak avec la danse russe. Et là, je vais vous présenter un extrait de la danse arabe, le café, dans une version là aussi du Kirov. Alors, selon des versions, c'est chorégraphié très différemment, mais simplement parce que cet extrait, je le trouve intéressant dans la mesure où ça montre bien comment Marius Petipa et Lev Ivanov, et là on sent que c'est bien retransmis quelque part, c'est dans la continuité, chercher avec ces moments-là vraiment des moments de divertissement dits plus exotiques grâce au déploiement de danse de caractère. Peut-être souvenez-vous de cet extrait qui, dans certaines versions, tire plus vers représenter le café, là où d'autres versions comme celle-ci tirent plus vers représenter une danse arabe, puisque ce soir, vous le verrez, dans la version que vous verrez, ce moment-là musical sera bien différent. Il n'y aura pas pas d'allusion au café ni même au Moyen-Orient, mais plutôt le lieu d'une étrange animalité qui se déploiera à ce moment-là. Ces moments de danse de caractère, dit divertissement dans Casse-Noisette, évidemment, c'était des moments pour le public aussi où on allait porter l'attention vers l'imaginaire, vers des pays d'ailleurs, vers d'autres cultures. Et ça permettait aux chorégraphes et aux danseurs de déployer une toute autre gestuelle. Alors, Rudolf Nureyev, 1967 pour le Ballet Royal de Suède, 1968 pour le Ballet Royal de Londres, 1969 pour la Scala de Milan, 1971 au Théâtre Colón de Buenos Aires, 1979 à l'Opéra de Berlin, 1985 pour l'Opéra de Paris. Alors, Rudolf Nureyev avait dansé lui-même ce casse-noisette alors qu'il était encore à l'école Vaganova. Il avait dansé un des enfants dans le casse-noisette. Et puis, plus tard, il avait aussi dansé le prince. Donc, il avait vraiment un rapport d'héritage en tant que danseur-interprète, depuis d'ailleurs la Russie, avec ce casse-noisette. Et il va lui-même en créer plusieurs versions. Alors, sa lecture, souvent, s'écarte un peu du côté féerique, on va dire sucré, de la version originale, pour s'intéresser plutôt aux peurs et aux cauchemars de Clara, de la jeune fille. Très souvent, Rudolf Nureyev, c'est vrai aussi dans Le Lac des Cygnes, va donner une dimension plus psychologique à ses ballets. Pour lui, finalement, c'est l'éveil de la féminité de Clara et puis de ses premiers émois d'adolescente. Ces relectures seront sans cesse renouvelées selon les productions, mais vraiment toujours en accentuant ou en mettant peut-être un peu plus de présence à la portée psychologique du conte. Alors là, je vous montre un solo de Clara. Vous l'avez compris, plutôt sur la première partie du ballet, le moment où lui est offert son casse-noisette. Les images là, sont issues d'un film qui a été réalisé par Nureyev en 88. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de ce tournage que Elisabeth Morin va être nommée étoile à l'opéra. On sent la grande musicalité présente dans ce casse-noisette. Comme dans la tradition académique, on peut avoir vraiment des moments où se mêle la danse savante et puis ces moments de pantomime qui permettent vraiment à l'action de progresser. Vous l'avez compris, le casse-noisette est cassé. Donc, on va avoir comme ça tout au long du XXe siècle de nombreuses versions. Une des versions, lorsque Nadège m'avait proposé de venir faire une conférence sur ce sujet, une des versions que je voulais absolument vous montrer, c'était la version de Georges Balanchine, ce chorégraphe néoclassique installé aux États-Unis suite à la fin des ballets russes, qui va créer son casse-noisette, pour lequel il va rester d'ailleurs énormément dans la tradition je dirais, académique de la danse. Point de néoclassique ou de figure néoclassique ici, mais plutôt pour proposer ce que nous pourrions qualifier d'une féerie à l'américaine avec le New York City Ballet. La première de son Casse-Noisette aura lieu en 1954 au City Center à New York. Et véritablement, pour lui, c'est le moment de mettre en jeu tout ce que peut contenir le rêve chez l'enfant. Et d'ailleurs, la plupart des danseurs dans la version de Casse-Noisette de Balanchine sont des enfants. Il va faire un casting avec une très très grande présence des enfants, les adultes étant là, mais en moins grand nombre. Il va aussi en faire une version télévisée en 57. Il y aura aussi un long métrage en 1993. Donc c'est un ballet qui va vraiment être présent dans le répertoire balanchinien, où il insiste vraiment dans la dimension féerique de rêve dans ce ballet. D'ailleurs, dans sa version, à la fin, Clara ne se réveille pas, mais elle s'envole avec le prince sur un traîneau tiré par des rennes, s'envole dans le ciel comme si le rêve n'allait jamais s'arrêter, un peu comme dans le conte d'Hoffmann finalement. Je l'ai arrêté malencontreusement. Enfin, c'est jamais très élégant quand on fait des coupures comme ça, mais ça vous donne une idée, voilà, de là pour le coup, là, appuyer sur cette dimension féerique et quasiment magique et imaginaire du Casse-Noisette. Alors, lorsque j'ai commencé à préparer ce temps autour de Casse-Noisette, je savais qu'il y avait un grand nombre de versions dites de tradition ou dites d'après une certaine tradition, et je pensais que sur le Casse-Noisette, il y avait quasiment aucune relecture. Je sais pas, j'avais cette idée que je connaissais beaucoup de relectures du Lac des Cygnes, de Gisèle, du Sacre du Printemps, mais de Casse-Noisette, je me disais, oh, il ne doit pas y avoir beaucoup de relectures. Je me trompais bien, parce que j'étais surprise de voir le nombre de relectures qu'on peut trouver de ce Casse-Noisette. Je ne les nommerai pas toutes. Je vous en montre peut-être quelques images. Alors, dans l'ordre chronologique, peut-être celle de Mathieu Bourne en 1993, celle de Maurice Béjart en 1998, celle de Jean-Christophe Maillot sous le titre Casse-Noisette Circus, qui est une véritable relecture du Casse-Noisette en 1999, celle de Thierry Malandin en 2001, celle de Ivan Cavallari pour le Ballet du Rhin en 2016, etc., etc., etc. Beaucoup d'ailleurs plutôt à la fin du siècle. Il y en a eu tout au long du XXe, mais on s'aperçoit qu'à la fin du siècle, il y a un grand nombre de relectures de ce Casse-Noisette. Alors, ces créations s'approprie le Casse-Noisette sans le renier, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'éléments qui restent suffisamment présents pour dire que c'est Casse-Noisette. Elle l'interprète sans le copier et vraiment le renouvelle à partir de nouvelles visions de l'œuvre que le chorégraphe souhaite apporter, souhaite signer, je dirais, de sa main. On a des grands changements de mise en scène, on a des variations de narration, des écarts plus ou moins osés, on pourrait dire, par rapport à la tradition, et plus ou moins originaux. Alors la majorité des reprises, ce sera le cas de celle de ce soir, et des relectures, utilisent les versions de Tchaïkovski au niveau musical, mais certains vont aussi se tourner vers le Nutcracker Variations de Duke Ellington, pour utiliser finalement une version un peu plus jazz de la musique composée par Ellington à partir des thèmes de Tchaïkovski. Donc certaines relectures vont jusqu'à utiliser aussi une autre version musicale que celle que l'on connaît de Tchaïkovski. Alors, Là, je vous montre que quelques images et je me posais la question de me dire, mais quelle version, quelle relecture je pourrais leur montrer? D'abord, qu'ils ne soient pas trop, qui ne disent rien de celle de ce soir, même si elles ne pourraient rien dire, chacune sont très différentes, mais en tout cas, quelque chose qui serait étonnant. Et j'en ai choisi une, finalement, une relecture de Mark Morris, qui est un chorégraphe danseur américain, né à Seattle au milieu du XXe siècle, qui va être chorégraphe, on va dire, en résidence au Théâtre de la Monnaie dans les années fin des années 80 et au début des années 90 à Bruxelles. Et justement, dans le cadre de ce moment bruxellois, il va créer une version, une relecture de Casse-Noisette qui s'appelle The Hard Nut de 1991. Alors, cette version, cette relecture est inspirée d'un artiste de bande dessinée qui s'appelle Charles Burns. Et là, on est vraiment dans une relecture qui pose le casse-noisette, on va dire, dans l'Amérique d'après-guerre. Et puis, on est vraiment dans montrer des stéréotypes, montrer des archétypes de la culpabilité, de l'enfance, de l'adolescence, de comment ça fonctionne dans une famille au moment de Noël. Alors, je n'en dis pas plus, je vous en montre un extrait. Voilà, je l'arrête là, mais pour vous montrer vraiment une version qui peut-être paraît très éloignée finalement de ce que l'on a dans notre imaginaire par rapport à Casse-Noisette. Dernièrement, dans les dernières versions de Casse-Noisette que l'on peut voir créées, je dirais, dans les deux dernières années, est apparue la mise en scène de Dimitri Tcherniakov pour l'Opéra Garnier à Paris en 2016. Qui propose une autre perspective à ce Casse-Noisette en invitant trois chorégraphes pour chorégraphier les trois tableaux finalement de Casse-Noisette, Arthur Pita, Edouard Locke et Sidi Larbi Cherkaoui, qui vont chacun proposer une manière d'engager ce Casse-Noisette ou cet imaginaire du Casse-Noisette selon leur propre signature. Donc, en deuxième relecture, si je peux me permettre de vous en montrer deux ce soir, le pas de deux, dans le dernier tableau, chorégraphié ici par Sidi Larbi Cherkaoui. Alors, c'était vraiment pour jouer des opposés. Là, on est sur un plateau complètement nu. Dansé par Marion Barbeau et Stéphane Bullion. Voilà, vous montrez aussi comment cette musique de Tchaïkovski peut vraiment résonner complètement différemment selon les choix chorégraphiques, scénographiques qui sont mis en œuvre pour la considérer comme une matière de création. Et vraiment, vous voyez que ça peut donner à voir des univers complètement différents. Et c'est vraiment le principe de la relecture. Comment s'emparer des éléments pour reconstruire ou pour construire, inventer autre chose. Alors pour ce qui est de se rapprocher de ce que l'on va voir ce soir, comme on essaye de le faire à chaque fois sans dévoiler quoi que ce soit, évidemment, peut-être quelques mots sur notre chorégraphe de ce soir, Jorren Verbruggen. D'abord une citation qui m'a plu par rapport à sa manière de s'engager en tant que chorégraphe. On va y revenir. Voilà ce qu'il a dit dans un entretien. « On m'a toujours poussé vers le classique, mais je pense que je n'étais jamais là. En fait, j'ai gagné beaucoup de prix et pourtant j'ai toujours trouvé que c'était trop dans la boîte. J'étais douée pour cette danse, mais je me sentais comme un rebelle car je ne faisais jamais les choses comme il fallait. » Jorren Verbruggen est un jeune chorégraphe né en 1983. Formé effectivement à l'École royale du ballet d'Anvers, primé en 2000 au prix de Lausanne, qui lui permet de recevoir une bourse pour aller étudier pendant un an à l'École nationale du ballet du Canada à Toronto. Et puis, parallèlement, il va commencer sa carrière de danseur-interprète en même temps qu'il commence à chorégraphier. Il va être interprète pour différentes institutions, le Ballet Royal de Flandre, le Ballet d'Europe à Marseille. Il va aussi même, je crois, danser dans une pièce de Yann Fabre. Et puis, il va faire, on va dire, la grande partie de sa carrière au sein des ballets de Monte-Carlo, puisqu'il va y être interprète de 2004 à 2014. Pendant 10 ans, il finira d'ailleurs sa carrière comme premier danseur au sein des ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Christophe Maillot. Et puis, pour la saison 2012 de ces ballets, Jean-Christophe Maillot va lui commander, va lui demander de créer sa première pièce officielle pour les ballets de Monte-Carlo, qui va s'intituler Kill Bambi, une commande donc de Jean-Christophe Maillot pour les ballets de Monte-Carlo, en collaboration avec la maison de couture parisienne On aura tout vu. Je le précise parce que c'est une collaboration dont vous verrez aussi les fruits ce soir, puisqu'à nouveau, cette maison de couture est associée à la création de ce casse-noisette. En septembre 2014, il va mettre fin à sa carrière de danseur pour se consacrer pleinement à sa carrière de chorégraphe. Et donc, sa première commande va arriver en novembre, pour novembre 2014, une première soirée qui lui est entièrement dédiée par le Ballet du Grand Théâtre de Genève, qui lui commande une version de Casse-Noisette. Philippe Cohen va l'inviter à pouvoir prendre en charge, et ça va être la première fois, je crois, pour lui, une si grande compagnie néoclassique, je dirais habituée à être au contact d'une grande série de chorégraphes, mais aussi de pouvoir remonter des ballets dans la tradition. Enfin, voilà, une grande compagnie habituée à ce travail. Et il va pour la première fois pouvoir, écrire un ballet pour une compagnie d'envergure. Il va donc travailler à un casse-noisette. Dans ce casse-noisette, dans cette relecture qu'il va proposer, vous le verrez, pas de Noël, pas vraiment de Noël, pas de cadeaux, pas vraiment de cadeaux. Par contre, un bal, une féerie aussi, une forme féerique, peut-être plus inquiétante que certaines versions du casse-noisette que l'on a pu voir avant. Voici ce que Jeroen Verbruggen dit au sujet de son casse-noisette. Lorsque j'ai annoncé que je ne voulais pas faire Noël comme c'est écrit dans le livret, on m'a pris pour un fou. On connaît tellement bien les musiques et les images qui y sont associées que je ne voulais absolument pas aller dans cette direction. J'ai gardé l'esprit de Noël, mais j'ai voulu une ambiance proche du film « L'étrange Noël de Monsieur Jack » avec Tim Burton. Avec un côté festif, surréaliste, mais aussi obscur. J'ai enlevé les flocons de neige qui se transforment en bris de glace. J'ai gardé le sapin qui pousse, même si ce n'est pas vraiment un sapin. J'ai conservé les moments magiques en les utilisant en fonction de la manière dont j'avais envie de raconter l'histoire. Pour cette histoire de sapin qui pousse, peut-être que certains là vous dites, point d'interrogation, dans la version traditionnelle, pour signifier que Clara devient de la même hauteur que le casse-noisette et que les rats, le sapin qui était plutôt petit au départ devient très très grand, comme pour signifier un changement d'échelle, et que Clara arrive à l'échelle des rats et de casse-noisette. Donc voilà pour ce qui est de ce possible sapin qui pousse, même si ce n'est pas vraiment un sapin. Donc, vous l'avez compris, nous serons dans une relecture qui va s'éloigner de cet originel, même si on va en garder certains principes. Je vous l'ai dit aussi, cette nouvelle version, cette relecture est vraiment a été pensée avec deux stylistes de renom qui font partie de cette maison de couture, On aura tout vu, qui ont travaillé avec évidemment des noms célèbres de de la mode, de la haute couture telle que Yves Saint Laurent, Lacroix, Paco Rabanne, mais aussi avec le monde musical connu par certains d'entre vous, notamment pour la réalisation des costumes, pour les plus jeunes d'entre vous dans la salle, par exemple pour les costumes des concerts de Lady Gaga, pour les plus âgés, pour ceux de Madonna. Je différencie un peu les publics. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un soin très particulier qui est donné à ces éléments de costumes, mais aussi, je dirais, d'objets, de décors, de scénographie. Et ça, pour moi, c'est vraiment en lien avec aussi, vous allez le voir, l'écriture très ciselée de la danse de Jeroen Verbruggen. Vraiment un mouvement ciselé, un mouvement stylisé. Qui amène un grand graphisme dans les danses que vous allez voir, même si par moment, justement, il joue au contraire d'un mouvement flouté. Et ça, c'est pour moi assez intéressant aussi de comment créer sur scène un mouvement flouté. On l'a à plusieurs moments, grâce notamment à de la rapidité, à des déséquilibres. D'un seul coup, ce mouvement qui peut être très net peut devenir très flouté à notre regard. Alors, comme à chaque fois, donc Marie ou Clara va être là, on est dans un rêve ou peut-être dans un cauchemar. Vous verrez que le casse-noisette, vous n'allez peut-être pas l'identifier tout de suite, ou voire peut-être pas l'identifier du tout. Une chose aussi que s'est permis ce chorégraphe, qui est très intéressante parce qu'il ne me semble pas que ça avait été fait avant, il s'est permis de changer l'ordre des morceaux de la partition originale. Donc, pour ceux qui connaissent très bien le casse-noisette, ne vous attendez pas à avoir la suite logique des choses. Et ça, c'était quelque chose à laquelle il fallait penser pour justement relire ce ballet. Pour finir, vous savez, je ne vous montre jamais d'image de la pièce. Là, j'ai montré une seule photographie. J'ai pris celle qu'avait pris le quartz pour être sûr que voilà. Par contre, je vais vous montrer, parce que je trouve toujours intéressant de commencer peut-être à voir un peu la gestuelle. J'ai choisi de vous montrer quelques images en noir et blanc d'une autre relecture qu'il a faite tout dernièrement, en 2017, où il s'est attaqué à une relecture du Sacre du Printemps, cette pièce de 1913 de Nijinsky, qui est relue sous le titre de Massacre par Jeroen Verbruggen. Création 2017 pour la compagnie des ballets de Monte Carlo. Je vous montre juste quelques images de répétition et non pas de la pièce. Je vous ai mis quelques images de la pièce à côté. Commencer à avoir le regard peut-être s'aiguise sur le travail corporel, sur comment ce travail corporel peut nous amener peut-être dans des imaginaires esthétiques différentes. Puis là aussi, je n'en dis qu'un mot, mais pour cette relecture du Sacre du Printemps, vous entendez bien que musicalement, ce n'est pas la version classique de Stravinsky, mais il a choisi de travailler sur une version jazz du Sacre du Printemps. Vous le sentez aussi peut-être dans ces quelques images de répétition, et c'est vraiment le cas aussi avec les danseurs du ballet de Genève. C'est vraiment une place importante faite à ce potentiel d'interprétation du danseur et à toutes ses qualités et compétences physiques. Voilà, je l'arrête sur ce tournoiement. Pour finir, parce que je vois qu'il est l'heure et je sais que voilà, nous sommes très habitués à ce qu'il y ait cette petite pause entre le moment de la conférence et le moment du spectacle, je voulais juste finir avec une indication pour la pièce, une phrase du chorégraphe lui-même, parce que pour moi, vous allez le voir, c'est un casse-noisette à multiples lectures. Voici ce qu'il nous dit. La vraie ligne de la pièce, c'est que pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Sur ces bonnes paroles, je suis encore ici quelques minutes si vous souhaitez échanger avec moi. Ceux qui souhaitent profiter de leur petit break d'une petite heure pour se retrouver au bar, par exemple, allez-y, ne soyez pas gênés. Et puis je vous souhaite un bon spectacle à 19h30. Merci beaucoup.